Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
C'est parti pour Mbappé, la prise d'élan, la frappe, but !
Et le but !
Le but de Kylian Mbappé !
Le
Paraguay qui cède donc, 1-0 pour l'équipe de France face au Paraguay.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h01 sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. Et hop, on est reparti pour une magnifique semaine en direct du Flora Brasserie parisienne sur les grands boulevards dans le 9e arrondissement de Paris. On se régale depuis le début de la Coupe du Monde, depuis le 11 juin. On est ici du lundi au vendredi, vous le savez. Alors prenez votre temps, arrêtez-vous si vous passez devant et venez participer à l'émission. Vous êtes en terrasse, il y a déjà du monde, c'est magnifique. Il fait beau, il fait chaud. Et surtout, l'équipe de France nous réchauffe le cœur. Magnifique, avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
C'est tout droit, ça fait
on le dit,
mois qu'on
on
vous le dit.
C'est tout droit.
Depuis Rotten Sélectionneur, au mois de janvier, c'est tout droit.
Maintenant, c'est Marocco devant nous. Hop, ouais. Hop, on va les écraser, comme l'a dit Cherki il y a quelques semaines. Écoute, on est avec une magnifique équipe.
Ah, oui.
Jean-Michel Larqué avec nous. Salut Jean-Mi.
Bonjour messieurs. Bonjour Benoît.
Ça va Jean-Mi?
Salut Jean-Mi.
Oui, ça va, c'est tout droit.
Qu'est-ce qu'on leur a mis aux Paraguayens?
Ah ouais?
Oh, terrible. Quel fou. Un matelas incroyable. Là,
c'est fou, c'est fou.
Une marche fou.
Écoute, ça tombe bien, c'est en regardant le match, je me suis dit, mais ils ont.
Ça rappelle des bons souvenirs, les 1-0, hein?
Ah, bah ouais. Ouais. Et puis des matchs où tu mets des coups.
Tous ceux qui sont superstitieux, voilà.
Tu mets des coups, tu mets des tirages de maillot, des coups de coude, des coups de tête. Il n'y avait que les enfants d'Éric Dimeco. Salut Éric.
Salut Jérôme, salut. Benoît, salut Jean-Michel. Dis-moi, c'est tout droit, mais heureusement qu'on n'a pas pris ta sélection, là, tes sélections que tu nous faisais, là, d'un Rotten sélectionneur.
Bah pourquoi?
Parce que on serait pas allé au bout. Hein.
Mais il y avait Boisdi.
Je peux te dire que.
Je me souviens quand même que tu en avais sorti quelques-uns. Hein.
Bah, qui?
Ouh là,
ceux qui sont moins bons. Ceux qui sont moins bons. Il y en a un qui s'est effacé tout seul, c'est Tchouaméni. Voilà. Et Koundé, ça va pas tarder.
Il y avait Udol, il y avait Boadi, il y avait Tolisso. Voilà.
Des cadors.
Ouais. Ah ouais. Et ça va, Eric? T'as pas quelque chose à nous annoncer?
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien.
Ah bon? Il y a rien. Possible.
C'est la reprise de l'entraînement à l'OM.
Je suis content d'être avec vous pour les derniers jours de la Coupe du Monde.
Non, mais il est modeste, Dimeco, parce qu'il se développe, la Casa Dimeco, un peu partout dans le sud de la France. Il n'ose pas le dire.
Ah ouais, non, mais là, ça.
Associer les peignes, notamment. Ah ouais, ça.
C'est quoi? C'est une chaîne maintenant?
Oui, ça y est.
Non, mais c'est une chaîne.
Bien sûr.
Non, mais on a des amis franchisés, donc on les salue. Associer les peignes.
Déjà, la franchise.
Et à bout
Belair
aussi.
Casa Dimeco,
voilà.
Casa
Dimeco. C'est bientôt
chez nous.
Et voilà.
Bientôt une multinationale chez la Casa Dimeco.
Attention, McDonald's, on arrive. Voilà.
Ouais.
Pas là
pour rien, nous. Hein. Ah ouais. Tu veux qu'on en parle à Donald pendant que Nicolas Pelletier le croisera la prochaine fois?
Il paraît qu'il est capable de tout, Donald.
Tu peux être distributeur officiel de la FIFA si tu veux, Eric.
Ah bah oui, il peut être distributeur exclusif aux États-Unis, hein, si elle connaît Donald. Il est passé dans le Moscato Show.
Tu pourras amener les pizzas Alcatraz à Gianni parce que.
Parce qu'il y sera, ouais. Ça va pas tarder.
Voilà, ça dénonce dans Rotten sans flamme. Parce que ce sera le thème de 19h. Le Rotten se chauffe, la suspension levée de Follarine Balogun. Est-ce que c'est le plus grand scandale de l'histoire de la Coupe du Monde? On va vous rappeler toute cette histoire rocambolesque. Donc Balogun qui ne sera pas suspendu pour affronter la Belgique la nuit prochaine. On fera le point sur les réactions avec Nico Pelletier. On veut vos avis au 32-16. Le match du soir, 21h, c'est ce choc Portugal-Espagne. On parlera de Cristiano Ronaldo qui a fait le show. T'as vu ça Jérôme hier en conférence de presse? Ah ça y est.
Ah c'est celui qu'on aime.
Là il a réglé tous ses
coups.
Pam pam pam. Est-ce que c'est lui le facteur X de ce Portugal-Espagne? Rendez-vous à 19h30 pour en parler avec nous. Retour également sur le match des Anglais. C'était le match fou de la nuit dernière.
Oh, ils ont eu chaud, les Anglais.
Victoire 3-2 contre le Mexique.
À quel match? Match à pas raté. Hein.
Anglais sera avec
c'est
nous
con que c'était parler. À 3h du matin.
Ouais, c'est clair, c'était à 2h.
Ouais, 2h du matin. Alors, c'est normalement, j'essaie de me réveiller et hier soir, c'était un peu dur et j'ai pas regardé, j'ai regretté ce matin, je te le dis. Alors en plus, quand tu te réveilles tôt le matin, tu essaies de revoir les matchs, eh ben ils sont pas encore en replay les matchs CBC.
Eh oui,
ça.
Bien sûr.
Ah bon?
Il faut attendre c'est-à-dire une ou deux heures après les matchs, ils sont pas en replay.
Ah oui, non, il faut attendre
quelques heures. Eric, T'avais un peu chargé la bulle ou bien c'était...
Non, bah, il y a des dimanches qui sont... Non, moi tu sais que je bois pas d'alcool, Jean-Michel, mais des fois c'est des dimanches un peu occupés et tu dors bien la nuit, donc j'ai pas réussi à me réveiller.
Quand on développe une franchise, évidemment.
Et ouais, j'ai fait beaucoup de pizza dimanche, donc c'est compliqué.
Ah bah oui. Ouais. Et puis un grand procès à 18h30. Le procès de Carlo Ancelotti, accusé d'être le principal responsable de l'échec brésilien.
Qui va défendre ça. Et qui va défendre
ça. Il y en a deux qui défendent.
Il y en a deux qui défendent.
Il y en a deux qui défendent Carlo.
Ils sont tombés dans la marmite aussi, ceux-là.
Bah ouais, je sais pas ce qui se
passe. Ah ouais, c'est-à-dire que dans cette émission, on respecte plus les légendes du football.
Ah bah, on les respecte quand elles font du bon travail, surtout.
C'est juste un constat, c'est pas un respect, là.
Ah non, mais allez-y. Critiquez Cristiano, critiquez Mbappé.
Critiquez
Carlito.
On ira.
Critiquez Infantino.
Bah super, bah voilà.
Ronaldo, personne le critique.
Et continuez de soutenir Infantino et Donald Trump, vous. Chacun son camp, chacun son coup.
Ouais.
Désolé. Hein. Voilà, c'est ça.
C'est les riches. Hein.
Allez, 18h07 sur RMC tout de suite. Revenons sur la victoire par KO des Bleus samedi soir.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans la fournaise pour ce huitième de finale des Bleus. France-Paraguay.
Ambiance électrique et choc de dingue.
On n'a pas tiré avantage.
Il s'est éclaté,
il a dû se prendre une cravate ou quelque chose.
Avec.
I'm ready, baby. I'm ready.
Le Mbappé du MMA français.
Ah, c'est chaud. Attention. Ouais, c'est chaud sur la pelouse là.
Et ça part en échauffement est complet, messieurs. Tout le monde y va. Même le gardien Orlando Gilles. C'est parti. C'était Mbappé à la base qui s'est accroché avec Kubas. La puissance et de la dynamique.
Le roi de l'UFC pour la première fois en danger.
C'est un coup volontaire du joueur paraguayen.
Du football, les gars. De trouver des excuses,
Non mais là c'est pas possible.
Et l'arbitre il donne pas de carton
amateur, là-haut.
Quel chaos. Elle est là la force du champion.
La dernière chance d'une légende.
Et lui aussi il a fini au sol là. Ils font même du judo là. Ils font du catch, du judo, de la boxe. C'est pas possible là.
Il y a un vrai contact sur le pied.
Il a tout un vrai contact. Il le bloque.
Penalty à venir pour l'équipe de France. Mbappé, la prise d'élan, la frappe.
Retour du roi du chaos.
I'm a boxer, I'm a fighter.
Et Velasquez qui est venu s'en mêler également.
Il y a des champions qui est là aussi.
La revanche du combat de l'année.
Une bagarre magnifique.
S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Nous, on sait faire le sale football aussi.
RMC Sport vous en met plein la vue. RMC Intégrale Coupe du Monde.
C'était la bagarre samedi soir entre la France et le Paraguay, le scénario qu'on redoutait, ce style de jeu atroce des Paraguayens, les coups de coude, les provocations. Bon, ça a même effrayé Eric Dimeco, vous allez voir.
J'étais à la télé, moi. Je me suis fait pipi dessus.
Tellement violent.
Je suis sûr qu'Eric, t'as dû avoir le rythme cardiaque qui s'est accéléré. T'avais envie d'être sur le terrain, je suis sûr. T'aurais mis 2-3 gifles, quoi.
Ouais.
C'est sûr.
Non, mais... Bon, passons à autre chose. Vas-y, continue ta présentation, ça avait l'air bien.
Heureusement, on n'est pas tombé dans le piège. Victoire 1-0, donc grâce au but de Mbappé sur pénalty. Revenons sur ce match avec Valentin Jamin en direct de Boston. Salut Valentin.
Salut les amis, bonsoir à tous.
Et chez les Bleus, Valentin, il y a eu cette satisfaction d'avoir su gagner autrement, gagner un peu salement, samedi soir.
Ah, complètement. D'ailleurs, on l'a vu, dès les célébrations, les Bleus qui, après avoir manifesté leur joie au nez des Paraguayens, un petit peu comme une vengeance, sont allés danser devant leurs supporters. On avait vraiment l'impression qu'ils avaient gagné un peu plus qu'un simple huitième de finale contre le Paraguay. Il y avait d'immenses sourires, la fierté d'être sorti de ce bourbier où Koundé, Mbappé, Koné ont pris des coups au visage, ou Upamecano dans les côtes, Olise qui a été chahuté. Sans aucun carton par ailleurs pour les Paraguayens. Mbappé qui a dit, on l'a entendu après le match, si on doit mettre les mains dans la merde, on va le faire. Un message fort appuyé par le défenseur William Saliba après le match à notre micro.
Ouais, le coach nous avait prévenu 2-3 jours avant de rester dans notre match. Il nous a montré quelques vidéos qui allaient nous rentrer dedans, faire des fautes, nous provoquer, et qu'il fallait qu'on reste dans notre match, parce que si on commençait à perdre l'énergie, à nous embrouiller et sortir de notre match, ça allait pas le faire. Donc reste concentré, c'est pas facile, et ça fait aussi du bien des fois de gagner les matchs difficilement comme ça, parce que depuis le début de la compétition, on est habitué à en mettre 3, et aujourd'hui c'est une victoire 1-0, mais ça a le même mérite.
Et oui, les Bleus avaient même eu, messieurs, une réunion à ce sujet dans la semaine. Deschamps avait moins sifflé les fautes aussi à l'entraînement pour que les joueurs s'habituent à être frustrés. Il y a quand même eu de la frustration, mais les Bleus ont aussi été malins. Je pense à Mbappé, un peu chambreur à la fin, Maignan qui gagnait aussi du temps. Et donc cette sensation à la fin du match d'un groupe qui en sort grandi, heureux d'avoir gagné un match aussi rugueux et persuadé que ce type de combat peut les préparer aux grandes affiches qui les attendent maintenant. Ils savent désormais qu'ils sont capables de se battre les uns pour les autres et de résister aux charges, mais aussi aux insultes qui ont été très très nombreuses.
Merci Valentin. C'est la une de Rotten sans flamme ce soir sur RMC en direct de la brasserie Flora dans le 9e arrondissement de Paris. Est-ce que les Bleus sortent renforcés de ce France-Paraguay? 32-16 pour participer au débat. Jérôme, est-ce que ça va nous aider d'avoir gagné comme ça?
Je sais pas si ça va. C'est une la satisfaction, elle va au-delà, si tu veux, de sur le niveau de cette équipe. Ce qui est sûr, c'est que moi, c'est mon état d'esprit samedi. C'est que l'équipe de France a gardé son calme. C'est pour moi exceptionnel ce qu'ils ont réalisé en termes d'état d'esprit. Parce que on est aussi passé par là. Il y a des matchs qui peuvent être très compliqués avec un excès d'agressivité de l'adversaire. Là, on a touché le summum hein, quand même. Hein, tu vois, c'était le summum avec l'état d'esprit des Paraguayens, qu'ils soient agressifs, qu'ils te mettent des coups, qu'ils soient regroupés défensivement. Ça, on s'y attendait. Après, ça a dépassé ça, si tu veux. C'est des gestes d'anti-jeu, des gestes violents. Surtout les joueurs pas protégés par un arbitre qui a été catastrophique. Ouais. Le pire arbitre de cette Coupe du Monde. J'espère que lui, au moins, on le reverra pas. Et avec tout ça, avec la difficulté de marquer ce premier but sur pénalty, qui a eu même à 5 mètres, hein, l'arbitre, à 5 mètres de la faute sur Doué, tout le stade l'avait vu, mais lui, il l'avait pas vu. Donc, il a fallu qu'on l'appelle pour aller voir devant la caméra pour accorder le pénalty. Et ben, en fait, avant ce pénalty, c'est sûr qu'il est arrivé tard, ce pénalty, et que l'équipe de France aurait pu craquer. Et je trouve que le fait que individuellement il n'y a aucun joueur français qui a dépassé les bornes, qui a mal réagi, ça veut dire une chose, et on le dit depuis le début de la Coupe du Monde, parce que c'est les infos de tous nos correspondants sur place, c'est que cette équipe, elle vit bien ensemble. Ils s'apprécient, les mecs, ils sont en mission, ils ont envie de gagner cette Coupe du Monde ensemble parce qu'ils s'entendent bien. Et c'est grâce à ça que individuellement ils ont pas pété un câble. Je pense que ils ont beaucoup de respect les uns envers les autres et que il y en a un insulté, craché, coup de coude, coup de tête, ils ont tout pris hein, certains Français. Bien, ils auraient pu décapsuler, et le fait de regarder à côté son pote et de se dire mais écoute, si je réagis mal, je vais les laisser à 10, parce que là je vais les... Et ben en fait je vais garder ça en moi, et ça pour moi c'est la plus belle des réponses. C'est que là on a fonctionné en équipe, et c'est ce qu'on aime. Moi je leur tire un grand coup de chapeau, parce que ça devait pas être facile, que ça soit les joueurs, les remplaçants, le staff. Quand je vois, j'entends Didier Deschamps qui se fait insulter sur sa maman qui vient de perdre il y a quelques jours, je trouve que c'est même lui a été exemplaire, si tu veux, dans sa réaction, peiné certainement, parce que on dépasse tout quand t'es capable de faire ça, mais ce calme qu'ils ont gardé, cette sérénité ensemble pour aller arracher une des plus belles victoires pour moi de la Coupe du Monde. Écoute, bah tant mieux, bravo, moi je les félicite, j'ai rien à dire de négatif, au contraire, je trouve que Kylian Mbappé à la fin, et vous savez que en termes de comportement par moment, moi ça me dépasse ce qu'il peut faire, mais là j'ai adoré sa réaction, le chambrage qu'il a pu avoir après au coup de sifflet final, mais j'aurais aimé avoir encore plus d'images et qu'il reste pendant 30 minutes autour des Paraguayens pour les chambrer d'autant plus. C'était fantastique. Pour moi, c'est la meilleure réponse, elle est là. Et donc, moi, je leur dis un grand bravo. Et bien sûr que le prochain match contre le Maroc sera dans un autre état d'esprit et qu'il faudra de nouveau penser football, terrain. Mais ça, ils le savent déjà, parce qu'on va jouer une équipe du Maroc qui est très solide.
Jean-Michel, est-ce qu'on sort renforcé alors de ce match?
Écoute, j'ai été quand même très surpris, moi. Très surpris de deux choses. La première, c'est effectivement de voir le comportement des Paraguayens. J'avais eu la chance et l'honneur de commenter le France-Paraguay à Lens en 98, et à l'exception de Chilavert, mais qui était connu et puis qui est gardien de but, c'est un petit peu différent, qui chambrait de temps en temps. Mais je ne me souvenais pas d'un tel comportement. Et donc là, moi, j'étais choqué, parce que moi, je vais en sortir trois quand même qui sont les pépites de cette équipe. Là, il y a le capitaine qui est pas mal, Alderete, Caceres pas mal non plus, et puis celui qui a le pompon, il s'appelle Galarza, c'est fabuleux. Enfin, tu te demandes comment ils peuvent terminer.
J'aime bien lui.
Hein, tu m'étonnes.
Bien sûr. Mais j'ai trouvé vraiment une facette de l'équipe de France assez extraordinaire dans le self-control des,
ah oui,
des joueurs.
Ah, ça, c'est vrai.
À l'image du dernier ballon que le gardien jette dans le dos de Mbappé, ouais, qui Mbappé, ne se retourne ouais. même pas, qui ouais. se retourne même pas pour réagir. Ça doit les rendre furieux de voir ça. Tu vois, quand tu dis, moi, je me serais resté. Non, tu sais que la pire des hontes, c'est l'indifférence. Et moi, j'ai trouvé l'intervention de Mohamed Sanadji, le responsable de la sécurité, oui. remarquable. Allez, les gars, entrez, tournez-leur le dos, allez voir les supporters. C'est pas nécessaire. Je pense que c'est une arme. Enfin, tu me diras, c'est pas ça qui te fait gagner des matchs. Hein. Je te le dis tout de suite. C'est pas ça. Mais c'est ce qui peut. Tu pètes les plombs, tu entres dans leur jeu, ça peut te faire perdre le match.
Ah,
ça,
tu prends deux trois rouges et puis t'es foutu.
On n'était pas loin.
Ça, c'est sûr. D'autant que. Bon, moi, j'ai lu que un arbitre français qui a parlé de qui considère qu'il n'était pas malhonnête. Il savait d'ailleurs de quoi il parlait, cet arbitre français.
Tony Chaperon.
En disant ça. Non, c'était pas Tony.
Non, Monsieur Layek.
Ah, Monsieur Layek.
Non plus, c'est pas Monsieur Layek. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Vous voyez, si vous voulez, Monsieur Chaperon qui a insulté les arbitres de district. Tiens,
je crois que tu parlais de ça.
Non, mais je le garde pour moi. Mais c'est dans l'équipe d'aujourd'hui ou d'hier, je ne sais pas. Mais quand Chaperon parle de Monsieur Tantachev, c'est ça, hein, Tantachev,
oui. Je dis, l'arbitre son nom.
Comme un arbitre de district, Monsieur Chaperon. Monsieur Chaperon, les arbitres du district, vous savez ce qu'il vous dit, les arbitres du district ? Que vous êtes quand même un drôle d'individu, quand même. Parce que lui-même a été arbitre du district. Et les arbitres du district, je te signale que le dimanche, quand ils sont tout seuls sur le pré, ils ont plus de mérite que les arbitres de pro.
Ah, c'est
ils sont
sûr, sept. Hein.
Voilà. Ils taclent pas les joueurs, les arbitres du district.
Ouais. Comment ?
Ils taclent pas les joueurs. Les
arbitres ouais, enfin, non, mais c'est une confrérie. Affaire extraordinaire. Pour en revenir à notre sujet, moi je considère que je pense que dans la préparation, ça a été une vraie préparation d'après ce que j'ai lu. J'étais pas aux réunions, et elle a porté ses fruits et que tous, qu'il n'y en ait pas un qui pète les plombs, qu'il n'y en ait pas un qui pète les plombs. Je trouve ça assez exceptionnel.
Mais surtout vrai. Juste qu'en plus, messieurs, il y a eu l'altitude des Paraguayens
qui
a fait que l'arbitre ne sanctionne pas. Donc en fait, ça fait double dose.
Ben oui, c'est pas un carton dans le temps réglementaire. C'est fou, bien
quand
sûr.
Quand c'est Olysée qui prend un jaune alors qu'il se fait agresser, j'imagine que ça doit encore être plus frustrant et plus agaçant.
Ouais. Eric, non, toi ça t'a plu, Eric?
Écoute, je déconne. Écoute, moi, j'ai pas envie de parler des Paraguayens. Je crois qu'on en a déjà trop parlé. J'ai eu la chance samedi matin de faire les GG du sport de 9h à 10h.
Je sais pas si c'est une chance.
Travailler les copains, c'est toujours une chance, Jérôme, quand même. Et chez Anaïs, juste un peu avant. Voilà, je pense que c'est le maximum syndical.
C'était la punition, alors.
Parler le lendemain, une heure, deux, d'ailleurs, on a parlé beaucoup de l'équipe de France, mais je trouve que c'est déjà trop, tu vois. Voilà, donc il faut s'arrêter de parler d'eux. Ils ont fait le match qu'ils voulaient faire comme ils voulaient le faire. Ils regarderont la suite de la compétition à la maison. Voilà, ça suffit, c'est pas la peine de parce que à la limite, on leur donne plus d'importance que ce qu'ils méritent. Moi, par contre, et c'est un peu le sujet du débat, et Jean-Michel et Jérôme en ont parlé, moi, je veux surtout féliciter le comportement des joueurs en premier lieu, parce que Jean-Michel l'a dit, je vais te dire, il y a quand même beaucoup de gamins, puisque il y a le petit Barcola qui nous explique après le match qui c'est la première fois de sa vie qu'il joue ce genre de match. Donc c'est la preuve que dans le football actuel, tant mieux d'ailleurs, ce genre de match n'existe plus beaucoup, voire plus du tout, et donc se retrouver à la Coupe du Monde dans un match comme ça, avec un arbitre qui laisse faire, je peux te dire que le joueur que j'étais, et beaucoup de joueurs de ma génération, j'ai entendu Zlatan d'ailleurs, qui est quand même beaucoup plus jeune que moi, qui dit à peu près la même chose. Je suis pas sûr qu'en ayant 30 ans, puisque bon, j'ai joué jusqu'à 35 ans, même si les deux dernières années étaient compliquées, je suis pas sûr qu'à 30 ans, 31, 32 ans, j'aurais gardé le calme et l'attitude que le joueur de l'équipe de France. Ce qu'a fait Mbappé, mais pas que lui, mais Mbappé, ça a été significatif parce qu'il était ciblé et parce qu'il y avait beaucoup de gros plans sur lui. Quand tu es la star de l'équipe adverse, ben, tu as beaucoup de gros plans. Et donc, ce parti pris de sourire aux provocations, voire aux agressions adverses, mais je lui dis, Kylian, tu es un monstre. Parce que moi, j'aurais pas rigolé. Je pense que j'aurais pris un rouge et j'aurais pénalisé mon équipe. Donc, ces gamins qui ont découvert un football qu'ils ne connaissaient pas ont été plus matures que on pouvait l'être nous, peut-être. Voilà. Donc, déjà, ça, il faut le mettre en avant. Jérôme, tu le sais depuis le temps qu'on bosse ensemble. Moi, j'aime toujours mettre en avant le comportement des joueurs dans les bons et dans les mauvais moments. Je veux mettre au crédit des joueurs leur comportement. Parce que, moi, critiquer entre guillemets, parler de la performance de l'équipe de France dans ce match-là, parce que on a débriefé le match, j'ai vu des notes, des joueurs, des machins et tout, mais c'était un traquenard. Ils sont sortis la tête très haute et ça va leur servir pour la suite de la compétition, voire pour leur carrière derrière, ces gamins. Donc bravo les gars. Et ensuite, celui qui sort encore plus renforcé, mais on n'avait pas besoin de ça pour savoir que lui aussi était monstrueux. C'est Didier Deschamps. On nous explique aujourd'hui que Didier leur a tout expliqué le match et ce qu'il fallait faire avec des vidéos, qu'il avait même anticipé la fin de match avec des agressions et peut-être une baston de fin de match avec les costauds, donc les Samba, les Lacroix, les Konaté, les costauds, la sécurité, tout ça. Les mecs, ça finit, on les prend, on les mène devant les supporters. Il y a même pas eu une embrouille. Les mecs en fait, ils cherchaient que ça. Ils cherchaient la baston.
Et imagine s'il y a baston. Plus frustrés les Paraguayens.
Mais là, tu t'imagines que les mecs. Et c'est pour. Alors, je vais parler deux secondes de deux minutes. Donc les mecs, ils ont joué avec leurs armes. Moi, tu sais, le football, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas qu'une manière de gagner. Et tu peux même gagner salement au football. Et si tu gagnes salement au football, eh ben c'est toi qui as raison. Ok ? Donc, eh ben là, et ils ont pas raison, parce qu'en plus, alors oui, il y a ces espèces de cartons, et ça, j'espère qu'à un moment donné, surtout sur lui, celui sur Olysée, quel scandale, le mec il touche même pas, il prend jaune.
Ça dépend de Trump.
Ça dépend de Macron du coup, puisqu'il paraît que c'est la République qui doit intervenir. Donc ça dépend d'Emmanuel Macron. Et voilà. Et donc
quel mot de la fin, non?
Exactement. Et donc, Didier avait tout prévu, tout expliqué, préparé les mecs. Et les mecs, ils ont écouté. Ils ont pas disjoncté. Bravo. Voilà. Donc, c'est fini. On parle plus du Paraguay. Et concernant le débat du jour, moi, je pense que ces gamins, puisque ce
sont des gamins
par rapport à nous, mais c'est ce qu'ils ont. En un match, ils ont multiplié leur expérience par trois ou quatre, là. Donc, merci le Paraguay. Voilà.
T'imagines, Jérôme, le duel Dimeco-Galarza, là, le mec qui mettait des coups de coude comme ça en pleine course.
Benoît, ne parle pas de un ou l'autre. Dans le football que j'ai connu des années 90, il finit pas le match. Voilà, il finit pas le match, et dans tous les clubs, il y avait des mecs qui étaient capables, si tu te comportais comme
ça,
de régler les comptes dans le jeu, et il rentrait au vestiaire avec un genou en moins, et tout le monde était content. Et
voilà, tout le monde était content.
Ce qui est étonnant, là.
Mais c'est t'as mieux que le football ait changé, Benoît, pour protéger les attaquants.
Évidemment.
Ouais, bah là, ils ont vraiment pas été protégés par l'arbitre.
Là, c'est l'arbitre qui était pas au niveau, plus cher. Après, à un moment donné, tu sais, la FIFA, on va en parler, il va falloir quand même, sur certains matchs, qu'ils mettent des mecs expérimentés.
C'est l'arbitrage, on dit souvent, bien, à juste titre, de l'arbitrage sur cette Coupe du Monde. Mais ils sont très souvent laxistes, quand même, les arbitres. Franchement, ils laissent beaucoup jouer, ils sanctionnent.
Jérôme, je peux pas te laisser dire ça. On peut pas encenser l'arbitrage depuis le début de la compétition parce que le rythme est plus élevé, parce qu'il y a moins de temps mort, moins de fautes sifflées, et leur reprocher l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'un arbitre expérimenté qui a l'habitude des matchs de Ligue des Champions tendus, matchs internationaux tendus, il aurait mis deux cartons d'entrée aux mecs qui faisaient n'importe quoi, et les mecs, c'est-à-dire que les trois cartons qu'on a pris nous, ils les prenaient eux, les jaunes. Ils rentrent au vestiaire. Mais les mecs, moi je trouve que l'arbitrage à la Coupe du Monde, sauf sur ce match.
Les désignations.
Non, voilà, c'est les désignations, Jean-Michel.
Et on parlera de tout ça à 19h.
Eric, mais vous le vous êtes des oiseaux
naïfs
de mauvaise augure ou vous êtes naïf parce que
oui,
mais Eric, ce n'est qu'une question politique. Il y a les élections en mars 2027 et évidemment que de
tu crois que ça joue pour le football et pour Infantino ce qu'on est en train de voir.
Mais non, mais ça joue pour lui.
Ça
joue pour lui. Et jusqu'à preuve du contraire, le football, il s'en tamponne.
On en parlera tout à l'heure, mais du coup c'est la mort du foot, je te le dis de suite, il est en train de tuer notre sport.
Et vous avez vu que Trump ne savait pas ce qu'était qu'un carton rouge, c'est-à-dire qu'il a passé le coup de fil sans savoir ce que c'était, quoi.
Ouais.
Ça c'est fort, quoi.
Il est bon, lui.
Il a été conseillé par un mec qui savait encore moins.
Et on l'écoutera. Allez, un grand merci à Valentin Jamin. Dans un instant, ouvrons le procès de Carlo Ancelotti, accusé d'être le principal responsable de l'échec brésilien de Brésil sorti par la Norvège dès les huitièmes de finale de Coupe du Monde. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Parfait, Haaland, c'est un phénomène. Erling Haaland, il va qualifier la Norvège. Il va renvoyer le Brésil à la maison. C'est finito le Brésil. À l'entrée de la surface de réparation, il prend son élan. Un pas, petit filet. Doublé encore.
Benoît Boutron, Jérôme
Rotel. 18h31 sur RMC. Et oui, Brésil, c'est à la maison, comme l'a dit Aurélien. Et oui, déception des Brésiliens, mais très belle victoire de la Norvège. On va en parler dans un instant avec Jean-Michel Larquet, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron ce soir dans 15 minutes, Benoît.
On sera avec un journaliste britannique, Andy Brassel, qui sera avec nous pour revenir sur la belle victoire anglaise face au Mexique à Mexico.
Belle victoire. La souffrance anglaise, mais au moins, ils ont le mérite d'être qualifiés. Ça, c'est
la troisième défaite sur les 90 derniers matchs au Stade Aztèque pour les Mexicains.
Ils s'en sortent bien, incroyable. Ils ont pris la marée, écoute.
Ah ouais, c'était impressionnant, mais c'était le match de la nuit qu'il ne fallait pas rater. Aurélien Tiercin qui est avec nous d'ailleurs. Salut Aurélien.
Salut les gars, salut à tous.
Aurélien. Aurélien s'est régalé avec cette qualification historique des Norvégiens pour les quarts de Coupe du Monde. Ah oui, ça change d'un PFC Lorient, c'est vrai. Victoire 2-1 contre le Brésil, le doublé d'Erling Haaland. La première fois que les Norvégiens atteignent les quarts de finale. Raconte-nous cette folie norvégienne au MetLife hier.
Eh ouais, parce qu'on savait déjà que c'était la plus belle génération de Norvégiens de l'histoire. Il y a Haaland, il y a Odegaard, il y a Fredrik Hørsnes, il y a Sander Berge, des mecs aussi qu'on connaît un petit peu moins comme Sheldrup qui a fait la passe décisive sur le premier but d'Erling Haaland. Mais encore fallait-il le prouver sur le terrain. Et hier, ils ont quasiment éliminé les Brésiliens en marchant parce qu'ils ont conservé le ballon, ils ont accéléré deux fois et ils ont marqué. Donc dans le vestiaire, évidemment après le match, ils sont qualifiés en quart de finale. C'est la folie, c'est le meilleur résultat de l'histoire de la Norvège. Et la star du vestiaire, c'est Erling Haaland. D'ailleurs, il a publié juste une petite photo sur Instagram et sur X de son visage, republié 75 millions de fois, liké des millions de fois dans le monde, parce que c'est vraiment le grand bonhomme de cette sélection. Il a marqué le doublé, il a qualifié la Norvège face au Brésil. Il a encore du mal à y croire.
J'avais du mal à y croire car je n'avais jamais osé en rêver de toute ma vie. Je rêvais de disputer la Coupe du Monde avec la Norvège et de la qualifier pour cette compétition. Mais je ne m'attendais pas du tout à battre le Brésil. Soyons honnêtes, encore une fois, je pensais que certaines choses étaient impossibles, mais je suppose que j'avais tort.
7 buts pour ses 4 premiers matchs de Coupe du Monde dans son histoire. Donc on parle de Messi et Mbappé qui pour l'instant sont potentiellement les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, mais peut-être que dans 20 ans ça sera Erling Haaland et puis le débat sera plié. Et puis la Norvège, donc je le disais, meilleure série de son histoire, enfin meilleur résultat de son histoire, au moins quart de finale de la Coupe du Monde à Miami contre l'Angleterre. Odegaard, Haaland, une équipe de fous pour le moment.
Et on a d'y être à ce beau quart de finale Norvège-Angleterre. Merci Aurélien, tout de suite parlons des Brésiliens.
RMC, Roten sans flamme.
Ce vestiaire, tu sais comment c'est un gros con, mais qui te fait gagner tous les matchs. Eh ben, je sais pas pourquoi, moi je l'aime. Voilà, moi les gros cons, j'ai joué avec des gros cons, ils me faisaient gagner les matchs, mais je l'aimais.
Le procès de Roten sans flamme.
On n'en aura pas les noms.
Une première depuis 1990. On donne jamais les noms, Eric. Le Brésil s'est fait sortir en huitième de finale de Coupe du Monde. Cette défaite qui met fin à une série de 8 qualifs consécutifs pour les quarts de finale. Brésil dominé par la Norvège. C'est fini pour la génération Marquinhos, Neymar, Casemiro. L'échec pour Carlo Ancelotti, qui est sélectionneur depuis plus d'un an. Tu crois qu'il va continuer encore?
C'est possible.
31 ans, ouais, tu vois.
Bah, écoute.
Tu as 35 ans, tu le vois.
Ouais.
En tout cas, il ne l'a pas dit officiellement, t'as raison. On suivra ce qui va se passer. Ce Brésil sans idée, sans style de jeu. On rappelle le bilan d'Ancelotti,
il a son arrivée. 80 ans, il est encore là. Fort,
17 matchs, 10 victoires, 3 nuls, 4 défaites. D'ailleurs, Ancelotti qui est sous contrat jusqu'en 2030. Alors, on va ouvrir son procès ce soir. Ancelotti qui est
accusé d'être le
principal responsable de l'échec brésilien. On a un procureur, Jérôme Rotten, bonsoir.
Ah, je suis tout seul.
Mais c'est incroyable.
Non, c'est fou, le manquer d'objectivité.
C'est dingue, c'est dingue.
Bon, écoute, bonsoir à tous.
Deux avocats pour Carlo.
Hola.
Eric Dimeco,
hola, chicos.
Bonsoir.
Hola, chicos.
Hola, chicos.
Et Jean-Michel Larquet. Bon dia.
Voilà, bon dia.
Je suis là, je suis là. Bon dia.
C'est Pierre qui va rendre son verdict au 32-16. Salut, Pierre.
Salut, bonjour à tous.
Salut, Pierre. Bienvenue. Merci, Pierre.
Jérôme, t'es le seul courageux de la bande, donc vas-y, merci. Tu peux attaquer Carlo Ancelotti.
Ben non, mais en fait, j'ai hâte d'entendre Jean-Michel et Eric.
Non, mais parle pour toi d'abord.
Comment ils vont le défendre? Parce que en fait, j'ai du mal. J'ai du mal, si ce n'est d'aller sur le palmarès de Carlo Ancelotti. Il y a pas de problème. Beaucoup de respect. Moi, c'est pas ça que je critique.
Ça, c'est un argument.
Oui, parce qu'il a tout gagné, Carlo, en club. Donc, je vais pas aller à dire que c'est un petit manager et c'est un petit entraîneur. Il découvre le rôle de sélectionneur. Ça, c'est sûr. Le rôle de sélectionneur, et tout le monde est unanime pour le dire, ceux qui sont passés par les deux positions, que ça n'a rien à voir. Peut-être qu'il lui faut un temps d'adaptation. Et peut-être qu'il arrivera à prendre la mesure de ce poste de sélectionneur. Mais là, on est obligé de constater qu'au bout d'un an d'arrivée de Carlo Ancelotti, ça fait un an qu'il est là. En fait, il a apporté que dalle. Donc tu payes très cher un sélectionneur comme Carlo Ancelotti, parce que tu payes le nom et le palmarès, il y a pas de problème, d'accord. Donc ça, c'est la fédération brésilienne qui se démerde, et ça, moi, j'ai rien à dire là-dessus, et tant mieux pour Carlo Ancelotti s'il a un gros contrat.
Mais ce qui est sûr,
c'est que ce qu'il a apporté aux joueurs sur le terrain, il a rien apporté. Et moi, je suis désolé, le Brésil, plus que une autre sélection, ça aurait été une autre sélection, j'aurais peut-être pas parlé comme ça, et j'aurais pris sur la retenue pour critiquer Carlo Ancelotti. Mais quand même, Carlo Ancelotti, c'est pas un lapin de 3 semaines. Ce que je veux dire, c'est qu'il sait où il met les pieds quand il prend. Ce que je veux dire, c'est quand il prend le Brésil avec tout ce que doit avoir le Brésil, c'est-à-dire dans son système de jeu. Je veux bien qu'il soit pas dans la plus belle des générations brésiliennes, et c'est pas que celle-là, celle d'avant aussi était moyenne. Donc on est d'accord, si tu veux, qu'il y a un manque à ce niveau-là, en termes de joueurs très techniques, de joueurs qui arrivent à se sublimer avec le maillot de la sélection. Mais là, on n'a rien vu. Et la seule stratégie de Carlo Ancelotti, ça a été exactement celle de l'ancien sélectionneur, celui d'avant. Autant ne pas changer dans ces cas-là, c'est que vous regardez les équipes. À part un ou deux joueurs, c'est toujours les mêmes qui sont sélectionnés. C'est-à-dire que t'as l'impression.
Mais ils en ont pas d'autres.
Non, je suis désolé. Quand tu prends Carlo Ancelotti et que tu nous dis après la Coupe du Monde, vous verrez, dans 4 ans, on sera meilleur. Eh ben, dans ces cas-là, quand t'as pris le rôle en juin 2025, t'aurais dû dire, écoutez, la Coupe du Monde, elle arrive dans un an. On va essayer de se qualifier. Mais nous, on est en construction. Et tu mets des jeunes dans ces cas-là. Parce que moi, j'ai vu des équipes brésiliennes en club assez performantes à la Coupe du Monde des clubs. On les a vues. Fluminense, Flamengo. C'est des équipes, en fait, qui ont été un petit peu rafraîchissantes. On était même surpris de leur niveau.
Allez, il faut passer à la parole.
L'équipe brésilienne qui a été en finale contre le PSG, Flamengo. Flamengo a failli battre le Paris Saint-Germain avec des profils de joueurs, peut-être de la jeunesse. jeunesse. Pourquoi ces joueurs-là n'arrivent pas en sélection? Pourquoi tu es obligé de faire du vieux avec du vieux et toujours du vieux? Casimiro, Paqueta, Guimarães, et puis j'en passe et tout ça. Non, mais ce que je veux dire, Danilo, 34 ans, 35 ans, arrière droit. On a vu contre le Maroc, je suis désolé, cette équipe, elle méritait au moins d'avoir une autre structure. Et là où je finis là-dessus, je suis désolé, mais quand je parle d'ADN du Brésil, j'ai du mal, moi, à regarder des équipes brésiliennes qui laissent le ballon à une équipe comme la Norvège. Ils ont eu 40% de ballon, même pas 40% de ballon de possession contre la Norvège. Ouais. Mais où vous avez vu ça, une équipe brésilienne? Alors, non, mais comment Carlo Ancelotti peut faire jouer le Real Madrid, le Brésil comme le Real Madrid de l'époque? C'est pas possible. T'as le maillot jaune, c'est le maillot du football, quoi, tu vois.
Ou du Tour de France. Allez, vas-y, Jean-Mi.
Oui. Non, mais évidemment qu'il a une petite responsabilité, comme le docteur, comme le diététicien, comme le président de la fédération. Mais le problème d'Ancelotti, il est dans la droite lignée de ce que fait le Brésil depuis, j'ai regardé, depuis 26 ans ou 24 ans. Le Brésil n'a pas battu une équipe européenne en phase finale de Coupe du Monde. Pas depuis 26 ans. Les dernières performances, ils ont fait quart en Russie, ils ont fait quart au Qatar, éliminé en quart au Qatar. Chez eux, ils sont allés en demi-finale. Vous vous rappelez quand même la branlée qu'ils ont pris?
Oui.
Et on a fait des.
Oui, mais sur les matchs d'avant, on avait vu autre chose quand même.
Et on a fait des débats sur l'équipe actuelle. Mais Danilo, mais Koundé, c'est un génie à côté de Danilo. Mais là, j'ai regardé trois matchs du Brésil, j'attends, et je ne le verrai pas, j'attends que Danilo, l'arrière latéral droit, héritier des Cafu, des Dani Alves, des Carlos Alberto, il fasse une passe en avant. Une passe en avant, tu m'entends? Donc, tu vois, ce serait très grave. C'est pas important que ce soit l'heure.
Alors, pourquoi il le met là, alors?
C'est très grave. Parce qu'il n'y a pas de joueur. Et mais ce
arrête,
serait très grave.
Non, mais il n'y a pas de joueur, mais arrête, Jean-Michel.
Mais il n'y a pas de joueur. Et ce serait la plus grosse erreur au Brésil de considérer que la seule personne responsable, c'est Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, le Brésil et la formation des joueurs brésiliens doivent se remettre en question. Il ne travaille plus depuis des années parce qu'auparavant, il se baissait pour ramasser les bons joueurs. Ils ne les ont plus. Il faut travailler comme travaille le Maroc
ça
aujourd'hui,
comme les champignons,
par exemple,
là-bas.
En Afrique. Voilà. Donc bravo, les responsables, Jean-Michel. Ils sont au sein de la fédération.
Ouais, donc lui, il n'y est pour rien.
Football.
Eric Dimeco.
Voilà.
Non mais donc, là, franchement, que dire de plus que ce que vient la plaidoirie magistrale de Maître Larquet, contrairement à la soupe que nous a servi Maître Roten.
Oh bah oui.
Non, j'ai rien à dire. Là, il y a quand
c'est
même
du rata, un creux de génération. C'est du rata.
Il y a quand même un creux de génération qui est terrible. Et là où Jean-Michel a raison et je finirai sur ça. Du coup, c'est que et tant mieux pour le football, du coup, puisqu'on se rend compte maintenant que le football est devenu tellement mondial. Alors, ça a toujours été le sport le plus populaire du monde, joué de partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés, voire les plus insolites. Les gens travaillent bien. Il y a des clubs qui travaillent bien. Il y a des pays qui n'ont pas beaucoup d'habitants qui travaillent bien. Il y a eu un finaliste en 2018 qui avait 3 millions d'habitants, la Croatie. Et tu as plein d'exemples comme ça. Et une des grandes réussites de cette Coupe du Monde, malgré tout, et ça a fait débat, et le débat peut exister encore, hein, parce que moi, je suis ouvert à ce genre de débat. Sauf que avec la nouvelle formule, on a vu des pays comme le Cap-Vert, qui est un nain sur la scène mondiale du football, mais qui a des joueurs qui jouent bien au ballon, qui ont des gens qui sont allés apporter justement leur savoir-faire et leur détection et leur manière de travailler. Et le Brésil, ben si tu travailles pas bien, tu es dépassé. Le Brésil.
Alors il sert quoi football, Ancelotti?
Mais le problème de ce que tu veux pas comprendre, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt, Ancelotti. Le problème est plus profond, plus ancien et plus général. Voilà. Donc ils veulent taper sur Ancelotti, ils se tromperont de cible parce que derrière il arrivera un autre.
Mais tu le regardes le championnat brésilien, toi?
Oui, mais ça veut rien dire.
Moi non.
Ça veut rien dire.
Moi non.
Allez, verdict de Pierre. Pierre, vas-y, rentre au verdict.
Bah, le verdict, il est simple. Hein. Moi, je donne raison à Jérôme Roten. Déjà, si jamais il n'y croit pas au Brésil, pourquoi il vient? Et il a qu'à mettre, il a qu'à mettre Riri, Fifi, Loulou à la tête du Brésil. Il a qu'à dire qu'il a pas l'effectif. Après, il a pas un gros effectif. C'est un creux générationnel. Mais enfin, c'est quand même mieux que le Japon, que le Maroc, que la Norvège pour moi. Et pire que ça, on parle de la Coupe du Monde, dis donc. Il termine quand même sur les matchs que moi, je suis très Amérique du Sud. Les seules deux équipes qu'il a réussi à battre en aller-retour, c'est le Chili et le Pérou. Il a perdu contre la Bolivie, l'Équateur, l'Uruguay, le Paraguay, le Venezuela, l'Argentine. Bon, moi, je veux bien.
Mais qu'est-ce qu'il faisait avant de son arrivée, du coup, puisque tu suis?
Bah, pareil. Donc,
je te pose la question, Eric. En fait, avec les joueurs qu'il a, avec Vinicius, avec Paqueta, avec Guimarães, est-ce qu'il arrive à battre Saint-Maur-Lusitanos? Il arrivera à les battre ou pas? Parce que là, on parle d'équipe quand même minable. Il a quand même perdu contre la Bolivie, les mecs, quoi. La Bolivie, vous avez déjà vu la Bolivie?
Si avant, la Bolivie, ils sont pas qualifiés. Tu joues à 4 mètres.
La Bolivie, c'est pire que le Paraguay?
Si avant il gagnait contre toutes ces équipes et que Carlo arrive pas à gagner, c'est sûr que là je suis d'accord avec toi, bien sûr. J'avais pas vu que c'était une super génération.
Malgré la carrière brillante de Dimeco et de Larquet, c'est Jérôme qui remporte
tout le monde en terrasse m'applaudit, c'est incroyable.
Là c'est du niveau des Fantino de notre club, là il y a de la corruption là sur ce débat, moi je vous le dis.
On en parlera à 19h. Allez, dans un instant, on parle des Anglais avec un journaliste britannique qui va nous rejoindre. Des Anglais qualifiés pour les quarts de finale après une victoire difficile mais magnifique contre le Mexique 3-2. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h50 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme, on finit la première heure, les 10 dernières minutes, et on va parler de ce fabuleux match de cette nuit, Mexique-Angleterre. Ah oui, on a vibré, hein, 3-2, c'était fantastique. On est avec Jean-Michel Larquet, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. Après 19h, Benoît.
Ah ben, on va parler de cette suspension levée de Folarin Balogun. Est-ce que c'est le plus grand scandale de l'histoire de la Coupe du Monde? 32-7,
il méritait son carton.
On va voir si vous êtes courageux, surtout Jean-Michel Larquet, Eric Dimeco, Jérôme Bretel, on veut vous entendre là-dessus. 32-16 donc pour participer avec nous. Vous entendrez Donald Trump d'ailleurs qui s'est exprimé. Il ne savait pas ce qu'était un carton rouge. Allez, on y va tout de suite. Revivons ce qui s'est passé à Mexico.
RMC, Rotten sans flamme.
Lingam qui peut servir à Riken. Côté droit de la surface de réparation. Le centre. Et le doublé pour Jude Bellingham. Servi sur un plateau. Qui est à terre, le Mexique est KO debout.
Allô Jérôme.
80 000 spectateurs hier à Mexico, la victoire anglaise, 3-2, le doublé de Bellingham, le but d'Harry Kane. Quiñones et Jiménez ont marqué les buts mexicains, une des belles surprises du mondial, cette équipe du Mexique. L'Angleterre en plus réduite à 10 dès la 54e et l'exclusion de Jarrell Cuanza. On en parle ce soir, Jérôme, Jean-Mi, Eric, avec Andy Brassel qui est journaliste chez Talksport et présentateur du podcast Off the Continent. Il est avec nous, Andy, Jérôme.
Salut Andy.
Salut Andy.
Bonsoir les gars, ça va?
Ça va et toi?
Bienvenue.
Il est content.
Oui, très bien. Très
ah, bah là, oui, j'imagine. Là, c'est tout droit aussi pour l'Angleterre.
Oui, en fait, il y a plusieurs gens ici qui parlent de le match de la vie. Et en fait, c'est pas seulement l'opposition, mais c'est le fait de l'avoir joué à Mexico City. C'est le fait que la situation qui a déroulé le match n'est pas parfaite. Pas du tout. L'altitude, le décalage avec le temps, tout ça. Donc, oui, c'est vraiment un moment où on pense que peut-être les champions sont créés.
Est-ce que c'est une victoire fondatrice? Parce que tu nous parles justement de la portée historique de ce match, Andy. Est-ce que ça va compter pour la suite? Est-ce que tu sens qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec cette équipe anglaise hier?
Ouais, peut-être. Peut-être, parce que en fait, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans le tournoi, dans le passé assez récent aussi, parce que si on pense de Euro 2024, on n'a pas bien joué au niveau du style, au niveau de flow et tout ça, mais franchement, on a toujours réussi de trouver le chemin. Et en fait, c'est l'avantage d'avoir les joueurs comme Jude Bellingham, bien sûr, et Harry Kane, que même si tu joues pas bien, tu as l'opportunité de remporter le match. Mais en fait, c'est une question d'avoir une vraie... Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, pour la première fois, on avait l'impression que on était contre l'adversité, mais on a su qu'on l'échappait.
Est-ce que tu penses quand même que, alors c'est bien, on est dans l'euphorie parce que ce match, il y a eu des multiples péripéties dans ce match-là, et c'est pour ça qu'on aime le foot dans un contexte, et tu viens de le dire, très hostile. Donc c'est une vraie performance de l'équipe anglaise d'avoir réussi à retourner cette équipe du Mexique. Mais malgré tout, là tu vas jouer la Norvège.
Eh oui.
Avant le coup, tu vas être favori. Est-ce que tu penses que cette équipe anglaise, elle peut s'améliorer? Parce que ce qu'on voit depuis le début, c'est quand même pas incroyable, quoi.
Ouais, au niveau du style de jeu, je ne suis pas sûr. Mais franchement, je ne sais pas si c'est important ou pas. Parce que c'est débile pour moi de nous comparer à la France, par exemple.
Oh non, mais je ne veux pas te comparer.
Parce que.
Puis tu sais, je suis pas débile, hein, donc ça va alors.
Mais au niveau stylistique, c'est impossible de se comparer à la France ou à l'Espagne, par exemple. Mais comme j'ai dit, c'est pas important parce que on a les joueurs qui peuvent gagner les matchs.
Mais tu penses pas que ça soit, c'est quand même risqué de subir autant parce que. Encore une fois, il n'y a pas que le match d'hier. Et le match d'hier, le contexte et tout a fait beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé une équipe mexicaine, comme depuis le début de la compétition, qui est très joyeuse, qui est très performante aussi. Et il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que c'est une très belle équipe, bonifiée par des bons joueurs. Ouais, qui joue au ballon et Quiñones, là, tu t'en parlais, là, le buteur du premier, celui qui a mis le premier but, là.
Quiñones. Le premier but, Quiñones,
ouais. Quiñones, c'est franchement magnifique. Mais n'empêche que quand tu vas avoir le ballon, peut-être essayer d'avoir le ballon, essayer de les contrarier, cette équipe norvégienne qui a un gros collectif, si tu mises que sur Harry Kane et Bellingham, bah peut-être que tu vas l'avoir dur quand même.
Oui, peut-être, mais en fait, on peut dire qu'avant le match entre le Brésil et le Norvège, la plupart des gens imaginaient que le Brésil prenait beaucoup de la possession de ballon, mais finalement c'est pas arrivé parce que en fait le milieu de la Norvège c'est assez fort et c'est clair que aussi que on connaît bien le footballeur norvégien chez nous, donc en fait c'est pas important si l'Angleterre a beaucoup de la possession ou pas. Et en fait le problème pour nous en ce moment est au niveau de milieu, on n'a pas Declan Rice à 100% en ce moment.
C'est vrai.
Il y a peut-être un Declan Rice de 65%, donc ça c'est difficile pour nous. On a des problèmes défensivement toujours. Donc, je pense que la réponse est tout le temps, c'est Bellingham et Kane. Mais aussi, je pense que l'autre bonne chose qui s'est sortie du match contre le Mexique, c'est que on a vu le meilleur Bukayo Saka de ce tournoi. Et ça, c'est très important pour nous.
Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il a été. C'est son meilleur match depuis le début.
Andy, merci beaucoup d'être venu dans Rotten Sans
Merci
plan.
Andy, en tout cas. Et puis.
Écoute, on se retrouve en finale.
On se retrouve en finale alors parce que nous on y est déjà. Hein.
Voilà.
Ouais, voilà. Merci.
Et juste Andy, petit message personnel. Vous savez qu'en France on a le meilleur cover band d'Oasis, c'est Osiris avec Eric Dimeco qui est bassiste. Donc allez écouter ça.
C'est pas obligé de lui dire. Non mais c'était une blague.
Il a dû lire l'article dans The Guardian sur ça.
Andy, j'espère que t'as pas échappé.
Si Andy, regarde, tu verras, ils ont tous un nez rouge quand ils jouent de la basse et qu'ils chantent.
Mais va voir ça, Andy. Osiris, n'hésite pas.
Ouais. Voilà, Osiris, nez rouge.
Et c'est mieux que l'original, il paraît même.
Ouais.
Voilà.
Des clowns.
Excellent. Merci, Andy. Merci, bonne soirée.
Merci, ciao.
Bye bye. Et dans un instant, Rotten se chauffe. On va parler de ce scandale du week-end avec la suspension levée pour Folarin Balogun. Est-ce le plus grand scandale de l'histoire de la Coupe du Monde? 32-16 pour participer avec nous.
Je pense qu'il y a quoi avec le nez rouge.
Les supporters sont là. Allez, les bleus.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé la première partie ? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.